Comment tu fais quand tu as 1h30 d'utile par jour pour compenser ce que les autres vont faire en 6 à 8 heures? Comment tu fais? J'étais devant une table de 10 personnes et là, mon patron littéralement me lâche comme ça. Il me dit « Vas-y, explique ce que tu m'as expliqué. » Ma prof d'anglais à l'époque avait dit à mes parents « Écoutez, lui, l'anglais, jamais de la vie. Jamais de la vie, Valentin. Il est nul. Il est nul. » Tu fais un choix, tu dis « Bon, bah écoute, on va tout donner à la danse. » Sauf qu'en fait, en même temps, je tombe malade. Et vraiment malade. Je rentrais du boulot et je m'entraînais en fait jusqu'à 1h du matin. Donc j'étais capable de faire 4-5 heures de danse par jour, tous les jours. Cette maladie, elle va me suivre pendant presque 10 ans. Très rapidement, tu comprends qu'il vaut mieux accomplir des trucs importants et de savoir sur quel truc tu es en train de travailler à ce moment-là précisément, plutôt que de démarrer 150 000 trucs.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Chris Marquez. Salut Chris, comment tu vas ?
Hello François. Je suis ravi d'être là, je vais très bien.
Bah écoute, je suis très content de te recevoir. On va pouvoir parler de ton parcours qui est assez exceptionnel. J'ai très hâte d'en discuter avec toi, puisque je te suis depuis quelques années. Tu fais plein de choses, ce serait difficile de mettre un mot sur ce que tu fais, tellement t'as fait de choses finalement dans ta vie. Mais la première question, qui est un peu la question de départ que je pose dans la majorité de mes podcasts, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi.
Alors moi j'ai grandi en Alsace. À Colmar, famille, bah écoute, papa, maman, mon petit frère, ma petite sœur, et une famille, j'ai envie de presque dire traditionnelle, d'immigrés portugais, espagnol. Papa qui était donc ouvrier dans une usine, maman qui faisait des ménages, qui bossait également à l'usine. Mais on était très heureux. C'était très cool. C'était une vie dans laquelle on comprenait très très vite en fait que les choses ont une valeur et que cette valeur a un prix personnel que nos parents devaient payer tout simplement en allant travailler comme tout le monde. Mais non, c'était moi j'en ai que des bons souvenirs.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions?
Ouais, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que les gens me voient aujourd'hui et pensent que je suis extraverti, que j'adore être au-devant de la scène, etc. En réalité, moi, bon, naturellement, je suis un timide. Naturellement, j'aime rester à la maison. Et ça n'a pas changé, d'ailleurs. J'aime être chez moi, j'aime être dans mon cocon. Mes premières passions, c'était des passions de lecture, tout simplement. Dès que j'ai appris à lire, j'étais fasciné par le fait que... Et ça paraît bête ce que je vais dire, mais le fait de lire me permettait de dépasser les limitations que potentiellement j'avais autour de moi. Il n'y avait pas Internet. La lecture me permettait de m'ouvrir au monde tel que moi je le souhaitais. J'avais des intérêts qui étaient complètement variés. Hein. J'ai voulu être égyptologue. À un moment donné, je suis parti dans un délire pilote de chasse également. Étant nul en maths à l'époque, et les maths étant importantes pour devenir pilote, on a vite oublié cette carrière. Mais c'est vrai que ce que j'adorais, c'était la multitude d'informations que je pouvais aller chercher. Donc moi, ma vraie passion, en réalité, c'est pas des passions, c'était une passion, c'était la lecture.
C'est marrant parce que tu m'as dit, j'étais introverti, je le suis toujours. Et en fait, il y a cette croyance de, si on est introverti, on peut devenir extraverti. Moi, je suis convaincu que non, je suis moi-même introverti. Et en fait, le fait d'être introverti, c'est le fait de se recharger seul.
Alors que l'extraverti va se recharger finalement avec les autres et va avoir besoin, va être un animal social finalement avec les autres. Par contre, la timidité, c'est quelque chose qui se soigne. Pour avoir été aussi un timide maladif, ça s'est soigné avec un peu de théâtre, un peu de rencontres, un peu de machin. Mais la timidité se soigne, mais le fait d'être introverti, c'est quelque chose qui reste en nous finalement tout le temps.
Bah écoute, je crois qu'on est complètement aligné sur ça. J'étais timide, pour le coup, vraiment maladif. C'est-à-dire que moi, c'était ma hantise, d'une certaine façon, c'était les autres, malheureusement, et je leur en veux pas, hein, il faut pas qu'on m'en veuille non plus, mais moi, voilà, ma hantise, c'était les autres. Mais à coup de... T'as pas le choix. Ben, en fait, j'ai appris à surmonter cette timidité. Mais c'est vrai que le côté, t'as complètement raison, le côté extraverti, bah, celui-là, il est là. C'est-à-dire que moi, je suis le mec dans une soirée, c'est simple, tu vas très très vite voir que, une fois que j'ai fini ce qu'on m'a demandé de faire dans cette soirée, d'ailleurs, je suis très rarement dans une soirée juste pour le plaisir, la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, j'ai du taf à faire, j'ai un boulot, voilà, on m'a demandé d'être là, mais dès que j'ai fini, je suis très très rapidement dans mon taxi. En retour. Et voilà, moi, ça me... J'aime les gens. J'aime divertir les gens. J'aime partager. C'est vrai, j'aime partager. Mais en revanche, moi, j'ai cette espèce de truc. C'est, voilà, être dans une situation sociale, c'est... Voilà, il y a un temps. Il y a un timer. Et il va durer un certain temps. Et après, il faut que je lâche le truc.
Ouais, je comprends totalement. Moi, pareil, je pense que toute conversation était un moment de supplice. et heureusement, ça s'est soigné avec le temps et en faisant des trucs quand même. mais je comprends totalement. Comment est-ce que tu as vécu tes études ?
Alors moi, j'ai eu un... Il y a eu un événement assez marrant qui s'est passé, moi, à l'école. C'est qu'en fait, on nous a fait faire un test de QI généralisé en primaire. Et jusqu'à ce moment-là, j'étais un petit peu... Voilà, j'étais toujours... Ça allait, hein, je m'en sortais, mais bon, c'était pas non plus la folie. Et on nous avait fait un test de QI, et il se trouve que j'avais un des QI, sinon le QI le plus élevé de l'école. Et en soi, ça a rien changé, à part le fait que tout d'un coup, j'avais l'impression que on me laissait avancer à ma vitesse à moi. C'était pas forcément plus rapide, hein. Mais surtout, on comprenait que voilà, moi, j'avais des trucs un peu, on va pas se mentir, un peu chelous. Moi, je me rappelle au collège, j'arrivais en classe, dans mon sac à dos, en fait, il n'y avait strictement rien. Rien. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de stylo. J'empruntais un stylo à quelqu'un, j'empruntais une feuille de papier à quelqu'un d'autre. J'étais ultra présent pendant le cours. Je posais 40 000 questions et je sortais de la salle de cours à la fin de l'heure et littéralement, je jetais la pièce de papier que je venais d'écrire. Donc, à la fin de l'année, quand on me demandait de voir, en fait, le classeur, le cahier, le truc, il n'y avait jamais rien, rien. Mais sauf que, voilà, moi, ce qui était important, c'était de comprendre. À partir du moment où je comprenais, voilà, le reste fonctionnait assez facilement. Et moi, mes études, en fait, ça a été un truc que, d'une part, que j'ai adoré. J'étais bien, j'étais tranquille. Étant donné que l'apprentissage était quelque chose que je trouvais d'intéressant, c'était absolument génial. J'avais du mal à voir les applications pratiques. Ça, c'était un des problèmes qui me travaillait quand même très souvent. J'étais nul en art. Nul. Quand je dis nul, c'est que mon prof d'art plastique à l'époque, vraiment, à un moment donné, s'est demandé s'il n'y avait pas un problème avec moi parce que vraiment, j'étais incapable de mettre deux couleurs ensemble. J'étais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est devenu mon métier et qu'on me paye pour. Mon goût, ma capacité à choisir. Et donc ça, c'est assez...
Quoi, tout est...
C'est assez délirant, quand même. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai aimé l'école. J'ai aimé ça. Après, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet très vite. Et j'avais pas forcément une envie incroyable de partir faire 5, 6, 7 ans d'université. La seule matière qui aurait pu me convaincre de faire des études plus approfondies, c'était la physique. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis passionné par la mécanique quantique, la physique en général. Je trouve ça intéressant. Mais on est quand même dans des domaines qui sont plus de l'intellectuel et pas du pratique.
Bien sûr.
Et c'est vrai que moi, j'avais envie, en fait, bizarrement, pour un introvert timide, j'avais envie d'être dans le monde.
Et finalement, très curieux et très ouvert aussi à tous ces sujets.
Ouais.
T'as eu un baccalauréat sciences et techniques tertiaires. Et ensuite, t'as fait des études de psychologie et de business.
Ouais.
À ce même moment, finalement, tu pars vivre en Angleterre. Mmh. Comment est-ce que ça se passe, justement, cette transition France-Angleterre?
À l'âge de 17 ans, ça faisait quelques années que je dansais déjà. J'avais commencé à danser à l'âge de 12 ans, un truc comme ça. Je deviens très rapidement champion de France. Ça devient plus qu'une passion. C'est littéralement un besoin. Et je pense que le timide avait besoin de découvrir ça pour pouvoir s'exprimer pleinement. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, je dis à mes parents, écoutez, il faut que j'aille dans un autre club qui me donne de danse, qui me donne accès à des cours internationaux, des coachs internationaux, des chorégraphes, etc. Et en fait, il faut que je parte à Lyon. Donc j'ai 17 ans et mes parents me disent, à ma grande surprise, écoute, on te fait confiance. Déconne pas.
Ce qui est déjà précieux de te donner cette confiance.
C'est incroyable. Tu vas au lycée. On ne veut pas entendre un problème au lycée. Tu seras tout seul, mais tu vas au lycée tous les jours. On ne veut pas entendre une connerie. Et ton bac. Mais ok, d'accord, tu peux y aller. Donc on imagine bien quand même que pour mes parents, qui à l'époque, je le répète, quand même ouvriers, c'était quand même un sacrifice assez fou. Et donc je pars, je garde mon... J'avais bien compris les règles qu'on m'avait mis en place et donc je tiens à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Mais en même temps, je m'épanouis très rapidement également encore plus au niveau de la danse. Je commence à entreapercevoir un petit peu le côté plus international, travailler avec des étrangers, l'ouverture d'esprit qui était un petit peu différente. Et c'est vrai que j'ai mon bac avec mention et là, c'est ma petite carte où je dis bon... J'ai fait ce que vous m'avez demandé en septembre. En fait, j'ai envie de partir à Londres. Et là, c'est la grande surprise pour mes parents parce que je ne parle ni anglais, je n'ai aucune connaissance de la culture anglaise, c'est pas du tout mon délire. Mais sauf que à l'époque, les meilleurs chorégraphes étaient là-bas, les meilleurs couples de danse qui étaient la danse, qui était ma danse d'affinité. Tout le monde était là-bas et donc c'est là-bas où il fallait que je parte. Et donc je commence à prendre contact avec différents coachs qui ont l'habitude justement de faire ces allers-retours entre Londres et Paris, etc. Je leur demande comment on fait, je leur demande à qui parler, etc. Et j'ai un couple de danseurs qui sont encore aujourd'hui parmi mes plus proches amis, Eric et Gaël Sourdeau, qui sont des profs de danse, qui ont été multiprimés en danse, qui sont incroyables. Et dès que je leur parle, je vois une espèce de bienveillance, une espèce de une gentillesse, une bienveillance, mais également une vraie connaissance du sujet. Et je me rends compte que ces gens-là ont vraiment envie de m'aider. Ils sont pas juste là en train de me dire « fais ci, fais ça ». Non, non, non. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider, on va te présenter aux bonnes personnes. Et donc là, je pars quelques mois plus tard avec eux. J'arrive sur place, on trouve une partenaire, je commence à bosser avec les meilleurs coachs, les meilleurs profs, et c'est là que j'arrive en Angleterre, mais que je me rends compte que je parle pas l'anglais, que je me rends compte que c'est ultra compliqué d'évoluer dans un pays quand moi j'ai jamais fait face en fait au fait de ne pas parler la langue. Donc là tout d'un coup j'arrive dans un pays où littéralement je ne peux pas m'exprimer.
Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'apprendre une langue que de se lancer comme ça dans un pays
Je le recommande à tout le monde. Mais à tout le monde. À tout le monde. C'est vrai que, pour la petite anecdote, à l'école, pour le coup, en anglais, j'étais nullissime. Ma prof d'anglais, à l'époque, avait dit à mes parents, écoutez, lui, l'anglais, jamais de la vie. Jamais de la vie, il va le parler. Il est nul. Il est nul. On parlait même pas de marge de progression. Il est nul, lui. Et donc, c'est très drôle parce qu'effectivement, j'étais incapable de l'apprendre de façon scolaire. En revanche, une fois qu'on m'a balancé dans le tas, j'ai pas eu le choix. Donc, c'est cool.
Ouais, c'est clair. Et en même temps, c'est clair que c'est la meilleure solution pour se jeter dans le grand bain, finalement. Après ça, je crois que tu rencontres un peu dans cette période la personne qui va être ta femme, finalement, à Blackpool.
Ouais.
Comment se passe cette rencontre ? Vous vous rencontrez très jeune au final.
En fait, on se rencontre. Ouais. On a 18 ans, hein, donc. En fait, je la vois à une compétition quelques mois auparavant, une compétition dans la banlieue londonienne. Je le dis parce que ça paraît débile, mais c'est vrai. Je tombe immédiatement amoureux de cette fille, mais je ne la revois pas pendant 3 mois. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas exactement qui elle est. Je mène une espèce d'enquête un peu nulle où j'essaye de découvrir qui est cette fille sur qui j'ai complètement craqué. Et quelques mois plus tard, je me retrouve à Blackpool, qui est une ville dans le nord-ouest de l'Angleterre, que les Anglais aiment comparer à Las Vegas, mais je vous assure qu'il n'y a pas du tout de Vegas dans Blackpool. Mais c'est une ville qui est particulière, c'est une ville côtière, c'est une ville dans laquelle... machine à sous, beaucoup de casinos, etc. Mais c'était marrant parce que c'est une ville dans laquelle également se tient la compétition de danse qui avait la plus ancienne compétition de danse, la plus importante. C'était un petit peu comparé au championnat du monde, on va dire, en termes de danse. Et donc, je me retrouve là-bas avec ma partenaire de l'époque et j'aperçois sur la piste cette fille sur qui j'ai craqué il y a 3 mois. Je la retrouve enfin et en fait, là, je fais ma compétition et à l'issue de la compétition, ma seule mission, c'est de la retrouver, de lui parler et de vraiment, de ne plus perdre cette fille, quoi. Et on ne s'est plus jamais lâché.
Tout simplement.
Voilà. Depuis, ça fait 25 ans. 26.
Énorme. hyper intéressant. Et du coup, tu as fait des études de psychologie et de business. Tu as été vendeur de pièces informatiques.
Alors écoute, l'histoire des études de business et de psychologie, je vais te dire ce que c'était. C'est que je suis parti en Angleterre et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si tout capote ? Et donc, en fait, j'ai suivi des cours par correspondance avec l'université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était psychologie avec une option business. Sauf que la réalité, j'ai lu les trucs une fois, j'ai rien foutu, c'était catastrophique. Mais le problème, c'est que quand je lis les trucs, je les oublie pas. Et la réalité, c'est que même si je n'ai pas continué dans le domaine, enfin, dans les études, tout m'a servi. Tout m'a servi. Donc, moi, mon truc, c'est que je voulais absolument immédiatement appliquer ce que je savais. Et je suis arrivé en Angleterre, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je rencontre Jacqueline. Quelques mois après ça, on se met à danser ensemble. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nos carrières, en fait. Je ne fais que ça. Mais on a des cursus particuliers là-bas. Tout est cours privé. Donc, il faut littéralement sortir 120 euros pour 45 minutes de cours. 120 euros, c'était mais impossible. Impossible. Surtout qu'il ne te faut pas un cours. Il t'en faut 2, 3, 4 par semaine. À l'addition, elle monte vite quand même. Et donc là, un jour, je dis à Jackie, je dis, écoute, je ne sais pas, mais pour qu'on puisse continuer, c'est pas nos parents qui vont pouvoir nous aider sur ce coup-là parce que bon, c'est vraiment, mais c'est hors de prix. C'est à l'époque, on se le disait, mais c'était presque une activité de riche. C'était improbable. Mais en même temps, on va pas se laisser abattre par ça. Il doit bien y avoir une solution. Et donc, moi qui suis un peu fasciné par tout ce qui est tech, je lui dis, écoute, en ce moment, l'industrie qui cartonne, c'est la tech. C'était ce qu'on appelait à l'époque la première... bubble.com bubble. Et en fait, je dis, écoute, je vais voir en fait ce que je trouve. Mais ce qui est clair, c'est qu'on doit trouver un boulot, je dois trouver un boulot qui paye incroyablement bien pour justement financer cette activité qui est notre activité de passion et celle sur laquelle on veut vraiment se positionner. Et je trouve en fait très rapidement cette boîte informatique qui est littéralement, c'est des revendeurs de pièces informatique qui recherche un vendeur pour le marché espagnol, portugais et français. Je dis, on va pas chercher midi à 14h, hein. On y va. Et je me doutais du type d'entrevue que j'allais avoir, d'interview. Et donc, je dis à ma femme, écoute, va au news agent, va au magasin de presse. Et achète-moi tous les magazines d'informatique que tu peux me trouver. Mais tous, même ceux où en fin de compte tu penses que t'achètes un magazine, mais t'achètes juste un catalogue de pièces détachées à l'avant, tu vois ce que je veux dire ? Et elle m'achète tout ça, et en fait je décortique le truc, je lis tout en l'espace de 48 heures. Je lis tout, je vais à mon interview, à mon entretien, et en fait la seule question qu'il me pose c'est « Écoutez, vous allez vendre des pièces détachées, comment conçoit un ordinateur ?» Et là, je leur décris en fait la construction d'un ordinateur, de la carte mère au processeur graphique, en rajoutant la carte son et le machin et le bidule et le truc machin et la RAM. Et la vérité, c'est qu'à l'époque, je n'y comprenais rien. C'est juste que j'avais compris que mécaniquement, il te fallait ces trucs-là, sinon tu n'avais pas un ordinateur. Et donc, ils me disent à la fin de l'entretien, bah, écoutez, super, vous êtes pris. Voilà. Ça ne payait pas tant que ça, mais ça payait quand même vachement mieux que d'être un nettoyeur dans les fast-food, ce que je faisais à ce moment-là. Et donc, je prends et je commence à bosser dans la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'une part, je me rends compte que j'adore l'informatique, j'adore la tech. On est au balbutiement, il y a tout à faire.
Clairement, c'est les débuts.
C'était dingue. Et là, je me retrouve en fait dans un univers où très rapidement, je vends les pièces, mais ce que je trouve de marrant également, c'est qu'en fait, mon approche de la vente, elle était méthodique et minutieuse. Donc, je faisais moi mes propales de prix par rapport au volume disponible sur le marché. Mes prix n'étaient pas le même un jour avant qu'un jour après. J'essayais d'ouvrir et de développer des nouveaux comptes. Comme on bossait en fait à crédit, c'est-à-dire que on ouvrait des comptes de crédit pour nos clients, c'était cool parce qu'en fait, si tu ouvres un client qui a une ligne de crédit de 50 000 euros, ton job après, c'est pas forcément de lui vendre des pièces, c'est de lui dire, écoute, t'as 50 000 euros, j'ai 1000 processeurs, prends-les, tu vas voir, la marchandise arrive, t'es content, génial, t'as de toute façon, t'as 30 jours. Donc, tu ne te prends pas la tête. Tu n'es pas content, tu les renvoies, ce n'est pas un problème. C'est vachement plus simple de vendre de cette façon. Donc, en réalité, moi, j'ai un peu transformé mon métier. C'est-à-dire que je me disais, je ne suis pas vendeur de pièces détachées. Moi, mon job, c'est d'ouvrir des lignes de crédit au maximum. Parce qu'après, c'est super simple, en fait, de vendre. Et j'ai ouvert 2-3 comptes. Je suis tombé sur un truc où un jour, j'appelle une boîte de nulle part. Je me rappellerai toujours. J'avais des lecteurs laser Pioneer. C'était de l'or en barre. C'est-à-dire que c'était littéralement la marque et les lecteurs que tout le monde voulait. Et donc, j'avais des lecteurs DVD Pioneer. J'en avais 5000 de dispo à un prix de dingue, 2-3 dollars en dessous du marché. J'appelle cette boîte de nulle part au Portugal, qui était une très, très grosse boîte. Ça s'appelle Triudus à l'époque. Très grosse boîte. Je sais pas comment je me débrouille. Il est presque 17 heures. Les bureaux sont presque fermés. J'arrive directement avec la responsable des achats de la boîte. Je sais pas comment j'ai fait encore. Mais je dis, écoutez, je sais que vous avez besoin de lecteurs DVD. J'ai du Pioneer. Je l'ai à ce prix-là. Et je vous ouvre une ligne de crédit. Et vous posez pas de questions. Je vous envoie la quantité nécessaire. Et vous allez voir. C'est dingue. Et en fait, en 5 minutes, j'avais vendu le stock. Et j'avais ouvert une ligne de crédit de 250 000 dollars. Ça paraît bête, mais ça met une patate de dingue. Parce que bien sûr que pour ma boîte, ces 250 000 dollars, c'est littéralement une ligne de crédit cyclique. Dès qu'en fait, ils ont payé une facture, il y a à nouveau 50, 100, 120 000 de plus que tu peux aller revendre. Et ils sont dans une sécurité dingue parce qu'en fin de compte, ils reçoivent la marchandise avant d'eux. Et donc, il n'y a plus ce risque de « Ouais, mais attends, est-ce que je peux peut-être me faire arnaquer sur ce deal ?» Non, ça n'existe pas. Relation de confiance complète. Et donc, mon patron voit que j'ouvre 3-4 grosses lignes de crédit. Il me dit, mais en fait, tu fais quoi? C'est quoi le dire? Je fais, avant de les appeler, la plupart du temps, ils auront déjà reçu de ma part 2-3 mails. Je leur envoie des espèces de, à l'époque, des plaquettes. Je leur explique que voilà, moi, mon délire, c'est du beau matos, au bon prix, au bon moment. Et il me dit, ah oui, d'accord, en fait, toi, c'est tout le marketing avant même d'avoir appelé le mec, bah, je lui dis ouais, parce qu'en fait, une fois que je l'ai appelé, si elle me connaît pas, c'est toujours naze, ça fonctionne pas, tu vois. Et ce jour-là, effectivement, la boîte, par exemple, Triudus, bah, avait déjà reçu 3-4 de mes plaquettes. Ils savaient déjà un petit peu qu'il y avait ce mec en Angleterre, qui parlait portugais, qui, en fait, essayait de leur vendre du matos et tout. Et donc, c'était un tout petit peu plus facile. Et en fin de compte, à l'issue de 2 mois, il me propose de m'occuper du marketing de toute l'équipe de vente. Ce à quoi je dis, bah ouais, pourquoi pas, mais il faut me payer un peu plus. Ce qu'il fait, il accepte. Moi, immédiatement, je rentre, je dis à ma femme, écoute, tu vas à la librairie, tu vas m'acheter tous les magasins sur les techniques de marketing à jour. Et là, pendant 2 semaines, je me bouffe du marketing dans tous les sens. Sauf qu'en fait, j'ai toujours en tête, on est sur un nouveau marché, il y a des choses qui marchaient sur le vieux marketing qui vont pas marcher sur le nouveau, mais bon, les principes sont les bons, donc voilà, tout ce que j'absorbe, bah, à un moment donné, ça va m'aider. Bah, en fait, ça m'a bien aidé parce qu'au final, de devenir le lead marketing de cette équipe, je deviens le directeur du marketing de la boîte. On prend la boîte d'un chiffre d'affaires de 6 millions de livres à 15 millions de livres en l'espace de 8 mois. Et donc, c'est vrai que je commence à avoir une confiance de la part de mon PDG qui était quand même assez cool. Et on était tous un peu jeunes dans la boîte, donc on avait une vraie patate, on avait envie de bien faire et de vraiment s'imposer. Et donc, tu vois, quelques mois plus tard, il me dit, le vrai problème qu'on a là, c'est on n'a pas de site internet. C'est dingue de le dire aujourd'hui. Hein. À l'époque, on n'a pas de site internet, c'est compliqué. Je dis, non, mais t'inquiète, site internet, mais je te sors le site internet, c'est ma spécialité le truc, t'inquiète. Il me fait, ah ouais, tu peux le faire. Je fais, non, mais non, je te le sors, il n'y a pas de problème. Je te fais un site internet, ça va être une dinguerie. Mais attention, tu doubles mon salaire, parce que moi, je ne vais pas le faire comme ça. Si tu devais aller acheter un site maintenant, ça va te coûter bien plus que de doubler mon salaire. Bon, allez, d'accord. Mais t'as 3 semaines.
Les magazines.
Ok, je rentre. Jackie, tu vas voir ton pote libraire. Tu me chopes tout ce que tu peux sur l'HTML, le CSS, tout ce qu'il faut que savoir pour construire un site. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était pour moi, en fait, plutôt qu'un challenge, c'était carrément un kiff. Parce que, un nouveau truc à apprendre. Et quand je suis tombé sur le monde du code, bah en fait, je me suis retrouvé dans un truc dans lequel j'étais bizarrement familier parce que moi, mon cerveau, il fonctionne de façon modulaire. Je dois comprendre pourquoi tu fais ça, pour faire ça, pour faire ça. Et si je fais ça d'abord, ça va me permettre de faire ça. Mais attends, si je passe ici, ça, je peux faire un loop et j'évite toute cette partie-là. Et en fait, je voyais tout simplement dans le code des trucs qui me paraissaient complètement logiques et cohérents. Et donc, j'ai appris à coder en HTML, en CSS. Aujourd'hui, c'est une vanne. Mon fils de 9 ans peut coder du HTML. Mais à l'époque, j'étais un développeur de ouf déjà.
Tu m'étonnes.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc je deviens le directeur. Enfin, je livre le site déjà pour commencer. Et il me dit, bon, bah, écoute, génial. Si tu as des idées, n'hésite pas. Et là, en fait, je saute sur l'occasion. Et je lui dis, je pense qu'on devrait aller plus loin. Pour le moment, on vend des pièces détachées. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas des marketplaces. Mais je lui dis, mais en fait, je pense qu'on devrait mettre à disposition de nos clients un système qui leur permette de vendre plus, mieux, sans prise de tête, pour lequel, en fait, nous, on est juste des facilitateurs. Aujourd'hui, on dirait tout simplement, on devrait devenir une marketplace. On laisse les autres faire, on met à disposition toute notre infrastructure et au final, tout va bien. Et il ne comprenait pas trop. Et donc, je lui dis, bah, écoute, c'est simple. Ce que j'aimerais, c'est j'aimerais prendre... on avait une solution SAP dans la boîte. Je voudrais prendre SAP. Je voudrais foutre une base de données Oracle dessus. Cette base de données, je veux la connecter à SAP, mais à un site également. Et en fait, cette base de données, je veux l'alimenter en temps réel. Et à l'époque, le temps réel, ce n'est pas le temps réel d'aujourd'hui. Je vais l'alimenter en temps réel avec l'état des stocks de tous les fournisseurs de toutes les pièces. Mais ce que je veux, en fait, comme toutes les pièces peuvent venir de plein d'endroits différents, je fais une agrégation de toute l'information. Donc, pour telle pièce, j'ai peut-être 10 fournisseurs qui peuvent me la fournir, mais ils ont tous des états de stock différents, ils ont tous des prix différents. Et donc, je veux créer un prix et un état de stock en prenant compte de la volatilité possible sur le marché. Je veux également m'assurer que je me fais ma petite marge par-dessus. Et en fait, je veux que tout ça s'alimente presque tout seul, que je n'ai rien à faire. J'alimente mon site avec cette même base de données, ce qui veut dire que mon site est tout le temps alimenté en temps réel. Et ce site, je le mets à disposition en white label à tous nos clients. Ils s'occupent des ventes. Nous, on prend notre marge. Ils prennent leur marge par-dessus. Sauf qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils vont avoir des prix un peu plus bas parce qu'en réalité, ils ont accès direct à nos prix à nous, plus une petite marge de 10%. Et en fait, il me dit ah ouais, ça a l'air stylé ton truc. Ok, demain matin, on va voir un pote à moi. Et en fait, le lendemain matin, je me retrouve chez IBM Finance. Et là, j'étais un peu comme dans un film parce qu'en fait, j'étais devant une table de 10 personnes. Et là, mon patron, littéralement, me lâche comme ça. Il me dit vas-y, explique ce que tu m'as expliqué. Et là, je refais la même, mais avec whiteboard et tout. Je leur dessine les bases de données, je leur dessine le truc, le machin, le site en white label. Et là, les gars, en fait, nous disent, bah écoutez, on adore l'idée, c'est génial. Ok, on vous fait une proposition d'ici demain. Le lendemain matin, on avait une sheet sur 6,5 millions de livres, un truc comme ça, pour financer le projet, ce qui à l'époque était dingue. Et je deviens donc, à l'époque, le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe.
Énorme. Au final, c'est hyper... Enfin, quand tu prends du recul, tu te rends compte que tu as eu un état d'esprit d'entrepreneur très tôt. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, le fait de se lancer dans des trucs sans le savoir, mais en se disant « je vais l'apprendre et je vais savoir le faire », c'est une phrase qui est très courante aux États-Unis, qui s'est pas mal démocratisée en France, qui s'appelle le « fake it until you make it ».«
Fake it till you make it ».
Et c'est vraiment ça, tu vois. C'est, ouais. Les pièces, enfin, l'informatique, tu connais pas, tu vas apprendre. Le marketing, tu connais pas, tu vas apprendre, etc., etc.
Ouais. Et le pire, c'est que tu vois, après, une fois que le projet avait été mis sur pied, on commençait à me publier mes opinions sur le commerce électronique aux États-Unis, dans des magazines d'industrie, de la Silicon Valley, etc. Et le truc le plus délirant, c'est qu'en fait, je recevais des coups de fil de journalistes qui me demandaient « Vous pensez quoi ?» Et donc, bam, article. Et donc, ça n'a pas mis longtemps. J'ai eu un chasseur de tête qui m'a approché, qui m'a fait une proposition dingue pour partir à la Silicon Valley. Pont d'Or, ouf. Mon épouse et moi, on partait tous les deux. Ils s'occupaient de tout, du déménagement, la totale. Bon, c'était vraiment un délire à l'époque. Et ça aurait littéralement, financièrement, changé toute ma vie d'un coup, immédiatement. Plus jamais de problème d'argent. Plus jamais. Et ce qui est complètement ouf, c'est que ce jour-là, je rentre et je dis à ma femme, on m'a proposé ça et je crois que c'est peut-être la plus grosse erreur de ma vie si on accepte. Et elle m'a dit, bah, je te suis. Et c'est ce jour-là où j'ai lâché la tech.
Parce qu'en fait, très clairement, tu aurais pu faire carrière dans le digital, dans la tech.
Ouais, mais je kiffais bien. Hein. J'aimais bien.
T'étais à ça, tu vois, d'avoir une vie complètement différente, finalement.
Ouais, absolument.
Et du coup, à ce moment-là, t'as ce switch. C'est un peu une intuition, en fait.
Oui.
C'est clairement une intuition.
Ouais, c'est viscéral. Tu sais, il y a ce bouquin par un journaliste qui s'appelle Malcolm Gladwell. Le bouquin s'appelle Blink. C'est aussi lui qui avait écrit à l'époque le bouquin The Tipping Point. Et c'est un journaliste que j'adore. Il écrit ultra bien sur des sujets très précis. Et il y a ce bouquin donc, qui s'appelle Blink, qui est en fait... tout le bouquin est sur l'instinct. Mais sur l'instinct, sur des choses très précises et très appliquées. Dans quelle situation tu dois appliquer ton instinct et dans quelle situation tu ne dois pas l'appliquer. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il prend beaucoup d'exemples, il explique plein de choses, tu vois. L'exemple, c'est t'as le musée d'art à New York, si je ne me trompe pas, qui avait acheté une série de statues grecques et qui avait donc passé, tu vois, tous les tests de falsification, d'authenticité, de trucs de machin bidule, tout nickel. Et t'as un critique d'art qui rentre dans l'exposition pour la toute première fois comme ça, bam, en deux secondes, il dit « c'est que des faux ». Et en fait, il prend cet exemple en disant « ça, c'est l'instinct qu'il faut suivre. Pourquoi ? C'est un instinct qui est alimenté par une compétence incroyable. C'est un instinct qui est alimenté par un vrai savoir-faire. Et il dit, là où il ne faut pas écouter son instinct, c'est quand tu prends des décisions qui semblent irrationnelles sur des sujets que tu ne maîtrises absolument pas. Là, pour le coup, ton instinct, il ne sert à rien. Et il ne faut surtout pas y aller. Ça paraît bête et évident, hein, ce que je dis. Complètement bête et évident. Sauf que ça permet quand même de te poser juste la bonne question au bon moment. Attends, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je devrais vraiment le faire ou pas ? Et moi, à cet instant-là, il est vrai que quand je dis à ma femme, je pense que c'est le truc, si on le fait, on se plante. Bah, toute mon expérience jusqu'à ce moment-là, c'était d'aller vers ce qui me passionnait, d'aller vers mes rêves, d'aller vers mes envies et nos envies à partir du moment où j'étais avec mon épouse, d'aller vers ce que nous, on souhaitait faire. Et à ce moment-là, le saut vers les États-Unis et l'argent, j'adore l'argent, hein, je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi j'adore ça. Le saut vers l'argent était un saut vers l'argent uniquement. C'était pas un saut vers une passion, c'était pas non, c'était uniquement du financier pur. Et en fait, là pour le coup, mon instinct, il était très clair. Pour le moment, ta bonne étoile, elle t'a suivi parce qu'à chaque fois, tu as dit passion d'abord, envie d'abord. Si tu prends des décisions que pour l'argent, je crois que tu n'es pas forcément dans le... Tu n'as pas la compétence. Moi, à l'époque, je n'avais pas la compétence pour faire des décisions comme ça, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, je suis droit dans mes bottes et je ne l'ai jamais regretté.
Surtout qu'au final, c'était un métier que tu avais rejoint finalement.
Ouais.
Pour financer ta passion.
Absolument, exactement,
en fait,
c'était ça.
Je pense que tu étais rentré dans le tunnel du truc. Tu montais les échelons, tu kiffais aussi un peu
absolument,
les sujets tech, etc., évidemment.
C'est ultra intéressant.
Mais du coup, je pense que cette intuition, tu as dû te dire à un moment, ok, mais pourquoi je fais tout ça pour financer ma passion.
Ah ouais. N'oublie pas qu'en fait, je faisais des journées de malade et le vendredi soir à 18h, bon, ça, c'était un peu drôle parce que bon, j'ai quand même eu des moments absolument hilarants avec les équipes parce que je leur avais jamais dit que j'étais danseur. Un jour, j'étais quand même obligé de leur admettre que pourquoi il fallait absolument que le vendredi soir à 18h, je parte alors que bon, tous les autres soirs à 20h, j'y étais encore. Bah, parce qu'en fait, à 19h30, j'avais un avion pour partir en Allemagne faire une compétition de danse. Alors, quand je leur ai dit compétition de danse, le bureau a bien rigolé quand même. Mais ouais, je faisais ça uniquement pour payer ma passion. Mais c'est vrai que c'était intéressant et que j'adorais ça aussi.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ?
Après, pour le coup, c'est un nouveau switch. C'est une nouvelle étape. C'est-à-dire que, pour le coup, bah, financièrement, il n'y a aucun doute, ça devient compliqué. Ça devient très, très vite compliqué parce que... Le problème, c'est que tu fais un choix, tu dis « bon, bah écoute, on va tout donner à la danse et tu te lances. » Sauf qu'en fait, en même temps, je tombe malade. Et vraiment malade. C'est-à-dire que j'ai un truc où je me dis « putain, je comprends pas, attends, j'arrive à pas à marcher, j'ai mal partout. » Et là, bon, bah techniquement, à ce moment-là, j'étais quand même sportif de haut niveau parce qu'en fait, à partir du moment où un danseur... qui fait des compétitions, s'entraîne. Parce que moi, je rentrais du boulot et je m'entraînais en fait jusqu'à 1h du matin. Donc, j'étais capable de faire 4-5 heures de danse par jour, tous les jours. On était considérés sportifs de haut niveau. Et le problème, c'est que ça n'avait aucune logique. Tout d'un coup, j'allais plus au bureau, mais j'avais mal partout. J'étais pas bien. Et donc, je tombe malade et cette maladie, elle va me suivre pendant presque 10 ans. Donc, ça devient presque en fait un nouvel acteur de ma vie.
C'est quoi cette maladie ?
En fait, j'avais un truc qui était la fibromyalgie, myoencéphalite myalgique. Je l'ai eu pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, littéralement, ça a réduit mon temps utile par jour à 1h30, 2h maximum. Wow. Donc, compliqué parce que non seulement à ce moment-là, mon épouse et moi, on dit bah, on veut continuer notre carrière de danseur. On prend la décision de tout cacher et de ne le dire à personne à part nos parents parce qu'on ne voulait pas que le milieu choisisse pour nous ce qu'on était capable de faire ou pas. Et en plus de ça, on se fixe quand même, on veut être champion du monde et on va tout faire pour être champion du monde. Et donc ça, c'est techniquement parlant, si tu parles à quelqu'un de normal et cohérent, c'est pas compatible tout ça, tu vois. Sauf que nous, on n'avait pas forcément cette approche. Et c'est là où la tech m'a toujours aidé. Dans ton code, tu es toujours dans un souci d'optimisation. Dans ton code, tu essayes toujours de, je sais pas moi, sur tout ce qui est sur site, tu vois, à l'époque, notre obsession, c'était que la page, elle load en moins de 7 secondes. Aujourd'hui, j'espère qu'elle load plus vite quand même. Mais à l'époque, 7 secondes, c'était dingue, tu vois. En fait, tu trouvais toutes les petites optimisations, tous les petits loops, toutes les petites méthodes, tu vois, pour en fait télécharger les images de la page suivante sur la page précédente alors qu'elle est déjà téléchargée. Et comme ça, en fait, quand la deuxième apparaît, tam, tout apparaît plus vite. Et donc, la réflexion, elle était intéressante pour moi parce qu'en fait, tout ça, ça m'a aidé après. Comment tu fais quand tu as 1h30 d'utile par jour pour compenser ce que les autres vont faire en 6 à 8 heures? Comment tu fais? Et là, en fait, tu sais, quand t'as mal partout et que t'es malade et qu'en plus de ça, t'as rien à foutre toute la journée parce que t'es pas bien, t'as le temps de réfléchir. C'est pas forcément la réflexion la plus efficace, mais t'as le temps de réfléchir. Et là, je me dis, écoute, ok, comment on optimise? Comment mon load time, tu vois, il s'améliore? Comment on fait? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est utile? Comment est-ce que je vais trouver mon Pareto, tu vois, ma loi de Pareto? Comment est-ce que je vais trouver les 20% qui vont faire 80% du résultat? Et donc là, on se plonge dans plein de choses. On se plonge d'une part dans toutes les études sur les méthodes d'entraînement efficaces non physiques appliquées au sport. Notamment, il y avait une étude qui avait été faite, tu vois, dans le monde du baseball. Dans le monde du baseball, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le temps de réaction, c'est un des sports dans lequel le temps de réaction doit être le plus rapide. Entre le moment où la balle est lâchée et lancée, et le moment où le batteur, en fait, doit taper dans la balle, c'est de l'ordre des millisecondes. En fait, la décision doit être prise à une vitesse et doit être prise correctement pour, en fait, prendre en compte la trajectoire de la balle. Et donc, ils avaient utilisé ce sport pour essayer des techniques. Il y en avait une où la technique était purement de l'entraînement physique, bam. Il y en avait une où l'entraînement était purement de l'entraînement mental. C'est-à-dire qu'on te demandait de visualiser et de ressentir l'effort de taper dans la balle une fois qu'une balle venait vers toi. Et il y avait une troisième catégorie où, pour le coup, l'entraînement était hybride, physique et mental. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que l'attente de base était l'entraînement physique. Étant donné que tu avais le même temps pour toutes les... C'était une heure de physique, une heure d'hybride, une heure de mental uniquement. Mais on s'attendait à ce que le physique remporte en termes de résultats de très très loin. En fait, on pensait que c'était le physique qui allait gagner. Et au final, non. En fait, ce qui gagne, c'est l'hybride. C'est-à-dire qu'en une heure, il vaut mieux faire de l'entraînement mental et de l'entraînement physique. Et l'amélioration était notable. Il y avait vraiment une très grande différence, tu vois, entre juste le physique et l'hybride. Mais là où la surprise a été énorme, c'est qu'en fait, on pensait tous que l'entraînement uniquement mental devrait pas avoir de résultat. Parce que tu ne peux pas, en fait, complètement compenser le manque de physique. Sauf que c'est pas le cas. Ton cerveau ne connaît pas la différence entre une activation physique uniquement et une activation mentale. Dans sa tête, le mécanisme est quasiment identique. Et donc, c'est dans ton cerveau que ça se passe, et ton activation, en fait, elle est travaillée ou elle n'est pas travaillée, mais il y a quand même, en fin de compte, une amélioration à travers le travail mental. On en déduit que peut-être qu'on peut remplacer un certain nombre d'heures de répétition par des répétitions mentales, de la visualisation active. À ce moment-là, effectivement, on avait un coach en Hollande qui était spécialisé en fait de l'entraînement mental, du coaching de performance appliqué aux danseurs. Et donc, on se dit, il faut qu'on bosse avec lui. Et donc, on bosse avec lui. Et effectivement, c'était des trucs très précis, c'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas juste, je suis en train de danser dans ma tête. Non, on imagine vraiment chaque mouvement, chaque action. On imagine, on s'imagine le public, on essaie d'imaginer la température dans la salle. Qu'est-ce qu'on ressent, en fait, pendant qu'on est en train de toucher le sol? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en train de se déplacer? Est-ce que je regarde ma partenaire dans les yeux? Est-ce qu'on est connecté? Et vraiment, en fait, on crée une espèce d'image mentale qui est tellement puissante qu'au final, c'est des vrais entraînements. Le truc très étrange, c'est qu'en fin de compte, quand on va et on fait une compétition, les championnats d'Europe par exemple, on finit la compétition et à l'issue de la compétition, on se dit « Mais attends, c'est ultra chelou. On a fait toute cette compétition, on était ultra présents et en même temps, on avait l'impression d'assister à la compétition parce que c'est comme si on l'avait déjà fait 150 000 fois le truc. Et on se rend compte qu'effectivement, bah, on gagne les championnats d'Europe. Quelques semaines plus tard, on est envoyé aux championnats du monde et on remporte les championnats du monde également. Et à chaque fois, ce sentiment, à chaque fois, cette impression de fou. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait déjà vécu, quoi. Quelques années plus tard, sur Danse avec les Stars, j'ai la chance de travailler avec plein d'athlètes, dont des médaillés olympiques, etc. Et à chaque fois qu'on parle de compétition, c'est vrai qu'on a très souvent cette histoire qui revient. On a tous l'impression, bah, en fait, que quand on gagne, ouais, mais en fait, c'était déjà plié. On avait juste à faire ce qu'on devait faire, mais c'était, on l'avait déjà vécu ce moment, tu vois. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça, c'était une des optimisations qu'on a trouvé qui nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé.
Tu deviens ton propre coach mental, en fait.
Ouais, exactement, exactement, exactement.
C'est exactement ça.
Et après, tu vois, t'as cette approche aussi qui est de contrôler tout ce que tu peux contrôler et de laisser passer tout ce que tu peux pas contrôler. Ça paraît bête de le dire à nouveau, tu vois, mais il y a beaucoup d'évidences qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours qui sont essentielles. À un moment donné, ça sert à rien de t'inquiéter du temps. Ça sert à rien. Tu vas pas le changer, hein. S'il va neiger, il va neiger. Donc, tu t'achètes des skis si tu as envie, mais neiger, il va neiger. Donc, ça, c'était un autre élément d'optimisation. C'était de s'assurer qu'en fait, on ne perde absolument pas de temps sur les choses complètement incontrôlables. Parce qu'on perd beaucoup de temps.
C'est clair. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas apprendre à vivre avec ta maladie.
Ouais.
Et tu vas justement mettre en place tout ça entre guillemets, à cause et grâce à cette maladie, finalement. À optimiser, à faire de la visualisation. Donc, tout ce que tu vas mettre en place, finalement, ça va être un booster pour la suite.
Ouais.
Mais peut-être que ça ne se serait pas fait sans cette maladie.
Absolument. Je lui en veux pas, moi, cette maladie. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça m'a quand même, d'une certaine façon, mais même pas seulement mon épouse et moi, ça bien nous sûr. A construit, tu vois. Cette approche ultra modulaire du travail, cette approche de, tu vois, il y a un truc qu'on dit en anglais, tu vois, chunking, work in chunks, make sure you know what chunk you're working on, tu vois. Et en fait, très rapidement, tu comprends qu'il vaut mieux, en fait, accomplir des tâches, accomplir des trucs importants et de savoir sur quel truc tu es en train de travailler à ce moment-là précisément, plutôt que de démarrer 150 000 trucs. Il n'y a rien qui est terminé, il n'y a aucune chance d'aboutir parce qu'au final, tu ne sais même pas où tu en es. Non, en fait, ce côté très modulaire, il nous a sauvé la vie très souvent.
Hyper intéressant. Franchement, c'est un sujet hyper passionnant et ça permet aussi de mettre des bases, tu vois, sur la suite de ton parcours finalement, puisque derrière, du coup, tu rejoins Danse avec les Stars. Alors d'abord l'émission américaine sur la BBC.
Anglaise.
En tant que chorégraphe.
Ouais, absolument.
Et tu rejoindras ensuite Danse avec les Stars en 2011 en tant que jury cette fois.
Ouais, alors directeur artistique de l'émission
directeur
d'abord.
Directeur artistique, ok.
Et après quelques semaines au bureau, on me demande d'intégrer l'équipe à l'antenne.
Comment ça se passe, le fait de devenir un personnage public? Comment est-ce que tu le vis? Parce qu'en fait, jusqu'en 2011, entre guillemets, t'es un homme de l'ombre.
Ouais.
Même si tu as été athlète de haut niveau, etc. Là, tu switches, tu deviens personnage public, c'est-à-dire que potentiellement des gens peuvent te reconnaître, te reconnaître dans la rue.
Ouais.
Comment tu le vis ça?
Alors moi, je te cache pas que je le vis ultra bien. Je n'ai pas de problème avec. Non, écoute, le truc, c'est que... Alors moi, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, j'ai un taux de notoriété qui est quand même assez élevé. Je peux me balader un petit peu partout en France et j'ai l'impression de me balader dans un village. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que, et ça c'est la force de TF1 en prime time, pendant presque 12 ans maintenant, tu vois, c'est qu'en fait, tu rentres dans le quotidien, mais tu rentres dans l'hebdomadaire de la famille, et surtout en fait, pendant très 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 longtemps, on n'avait pas encore toutes les plateformes, et donc en fait c'était un peu le rendez-vous où toute la famille regardait la télé en même temps. Bah, en fait, ils ont appris à me connaître dans leur intimité, ils ont appris à me connaître chez eux. Et moi, les gens dans la rue, ils viennent me parler comme si, en fait, voilà, tu vois, c'est, hey Chris, bah alors, c'est pas possible, tu peux pas mettre un 2 à l'autre là-haut. Sois sympa. Mais j'aime bien, en fait, cette proximité. Je préfère cette proximité. J'aime pas cette différence d'approche, tu vois, monsieur Marquez. Alors, pourquoi monsieur Marquez? Je suis à la télé, alors. Ça n'a aucun sens, tu vois, le truc. Moi, j'aime que les gens soient juste vrais, tranquilles. Et c'est vrai que j'adore ça. J'adore le fait que maintenant, les gens, quand ils m'approchent, il n'y a pas cette espèce de barrière étrange. J'adore ça. Après, c'est vrai que c'est un challenge parce que tu vas manger au resto. À moins que tu sois à l'étranger, tu ne vas pas vraiment manger au resto avec la personne avec qui tu vas manger. Tu vas manger avec tout le resto. Parce que souvent, on va venir te parler, souvent, on va venir te poser des questions, prendre une photo. Et c'est cool parce que j'adore les gens et les gens sont trop gentils avec moi. Mais c'est vrai que ça change un petit peu ta relation aux autres.
Puis, il y a les gens en vrai, et il y a aussi les gens sur les réseaux, puisque finalement, on est en 2011, donc on est à un moment finalement où les réseaux sociaux émergent, notamment Facebook et Twitter.
Ouais.
Donc, il y a aussi finalement les réactions des gens sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et donc, c'est quelque chose de global, finalement. T'as aussi bien le public dans la rue, mais aussi le public sur les réseaux.
Mmh. Moi, le truc, c'est qu'en fait, les réseaux, j'ai une expérience qui est un peu particulière par rapport à tous mes copains qui sont à l'antenne. D'une, je kiffe les réseaux. J'ai pas une mauvaise expérience avec les réseaux. Les gens sont super cool avec moi. On m'envoie des messages marrants. Est-ce qu'on peut me charrier de temps en temps? Oui, mais comme pour tout le monde. Un jour, j'ai quand même une photo pas très sympa de moi qui est sortie sur, à l'époque, Twitter. Il y a quand même un mec qui est sorti. Waouh, là, 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 là. Il en a mangé du jambon, le Marquès. Et en fait, moi, je réponds, mais de façon un peu, tu vois, je réponds, oui, mais du jambon ibérique, tu vois, du pâte à nègre, à mon avis. Mais mine de rien, c'est marrant parce qu'en même temps, j'avais mis le hashtag Weight Watchers, je suis prêt quand vous l'êtes. Hein. Mais en fait, je l'ai mis en vanne, j'ai tout mis en vanne. Moi, le truc, c'est qu'en fait, mon approche, c'est une approche de les réseaux. En fait, quand on te vanne, tu vannes en retour, tu vois, c'est de l'autodérision et c'est de la dérision en général. Et tant que c'est pas méchant, c'est bon, vas-y, détends-toi, tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'en fait, Weight Watchers m'ont répondu. Je suis devenu ambassadeur Weight Watchers. Donc, j'ai envie de lui faire une commission à l'autre. Mais tu vois, moi, j'ai une relation avec les réseaux qui est assez cool.
Ouais, c'est ça.
J'aime bien les réseaux. Après, j'ai également, j'ai des coups de gueule, moi, sur les réseaux. Et sur les réseaux, pas sur affaire sur le réseau. Moi, c'est au sujet des réseaux, mon coup de gueule. C'est-à-dire que j'aimerais bien demander à Meta... j'aimerais bien demander à X maintenant, j'aimerais bien demander à TikTok, c'est encore autre chose, c'est plutôt une plateforme de médias qu'un réseau social, mais j'aimerais bien leur demander où est passée la promesse initiale du réseau social. Ça, c'est mon coup de gueule de ouf. Si j'avais Laurent Soli, le patron de Meta France aujourd'hui devant moi, si je l'avais en interview, je lui demandais, c'est passé où la promesse de réseau social.
C'est clair.
La promesse qu'on m'avait faite en 2011, qui était géniale, que j'adorais, j'étais comme un ouf sur les réseaux, c'est qu'en fait, j'allais avoir un accès direct au public. Le public allait avoir un accès direct. On pouvait me parler, on pouvait échanger, on pouvait créer des communautés. Mais c'est bullshit. Mais c'est bullshit absolu.
C'est devenu très descendant comme avant les réseaux sociaux, finalement.
Exactement. On n'a littéralement, mais absolument pas ouvert la démocratisation du discours et du message. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est, les fans et les abonnés ne peuvent pas en fait communiquer avec toi directement. C'est pas vrai. Les outils n'ont pas été mis en place de cette façon. On te parle de DM, mais bien sûr, mais va retrouver un DM quand tu as 500 000 abonnés. Va retrouver un DM d'une personne qui t'a écrit il y a 48 heures. C'est pas fait pour la communication. C'est pas vrai. C'est fait pour être du descendant uniquement. Et ça me gave un peu. C'est pour ça que j'ai tendance à moins communiquer sur les réseaux depuis quelque temps. Parce que je pars du principe que l'idée, c'était un échange. Je m'éclatais sur Twitter à l'époque. Sur Twitter, je m'éclatais parce que je balançais un truc, j'avais 350 réponses d'un coup, et les gens échangeaient, et bam, et on continuait la discussion, et c'était ultra stylé. J'avais déjà moins adhéré sur Insta, parce qu'en fin de compte, c'était basé sur l'image, c'était basé sur the curation, tu vois, le filtre et le travail de l'image, etc. Ouais, très bien, mais bon, on est arrivé à un truc où je dis, attends, je comprends pas. Tu balances des trucs, les gens qui sont abonnés à toi ne sont absolument pas garantis de recevoir ton contenu. Tu auras peut-être 5% qui vont recevoir ton contenu et les autres 95%, sous prétexte que l'algorithme décide que ton contenu ne va pas les intéresser, il va pas lui montrer. Mais attends, mais mec, en fait, algorithme Insta, j'aimerais bien que tu m'expliques une chose. C'est toi qui as choisi de t'abonner à mon compte ou c'est les abonnés qui ont choisi de s'abonner à mon compte? Bah, si les abonnés ils ont choisi de s'abonner à mon compte, ça devrait de toute façon être, on leur montre ce à quoi ils sont abonnés d'abord. Ils ont d'abord enlevé la chronologie. Ensuite, ils ont commencé à prioriser, à mettre une priorité sur ce qu'une personne doit voir ou pas sur son fil d'activité. Mais en fait, moi je veux bien, mais on marche en arrière.
Ouais.
On va en arrière. On devrait augmenter les flux de communication et on est en train de les diminuer. C'est pas normal.
Et puis avec une surcharge de la publicité, etc.
Bien sûr.
Les business models se sont affinés et se sont développés.
Mais explique-moi un truc avant qu'on parte, parce que là, ça devient un podcast sur les réseaux sociaux. Explique-moi un truc. Quel est l'autre business model sur lequel il est normal de demander aux utilisateurs qui deviennent créateurs de contenu, qui sont littéralement ceux qui alimentent ton infrastructure en contenu constamment, et on te dit, si vous êtes bien gentil et que vous nous alimentez assez, peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre voudra vous payer pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est pas Insta qui te paye. C'est potentiellement les sponsors que tu trouves qui viennent en fait te demander de faire des collaborations. Mais c'est un délire. C'est-à-dire qu'on te demande littéralement de gratuitement donner ton temps, de faire de la création de contenu. Avec un peu de chance, tu vas convaincre des boîtes de faire de la pub avec toi. Mais c'est complètement ouf.
Puis il y a aussi des créateurs qui vont même payer Insta pour faire des publicités et pour justement avoir plus de notoriété sur la plateforme. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et effectivement, ça a beaucoup évolué. Et je pense que tu l'as vu, puisque tu arrives sur Danse avec les Stars en 2011. Entre 2011 et aujourd'hui, les réseaux se sont transformés complètement, comme on a pu le raconter. Justement, comment est-ce que tu vois cette aventure Danse avec les Stars, si tu devais la résumer depuis maintenant, du coup, 12 ans, si tu devais résumer cette aventure, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, personnellement?
Alors moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Danse avec les Stars, c'est une histoire de presque 20 ans. Moi, j'étais là avant même qu'on tourne le pilote de l'émission en 2002-2003 en Angleterre. C'est-à-dire qu'un jour, on reçoit un appel, mon épouse et moi, écoutez, deux producteurs de la BBC souhaitent passer la journée avec vous dans un studio de danse. Vous avez des notions de réalisation? Oui. Ils aimeraient passer la journée. Super. On est dans un studio de danse et on passe 3 jours à montrer à ces producteurs comment on filme les différentes danses et comment les éclairer, comment les filmer, etc. Toutes les danses ne se déplacent pas de la même façon, donc on les filme pas de la même façon. On les cadre pas de la même façon, etc. Et donc, au bout de 3 jours, on nous explique, écoutez, en fait, l'idée, elle est toute simple, hein, c'est qu'on veut faire danser des stars avec des danseurs professionnels et toutes les semaines, on en élimine un. Ok, danser avec les stars, c'est marrant. Je vois pas comment vous allez le vendre, hein, mais ok, d'accord. La danse en prime time, c'était pas exactement... Et en fait, quelques semaines plus tard, ils ont un pilote. Et là, ils nous invitent à venir voir le pilote. On vient, on voit, etc. On participe au pilote. Et là, je me dis, waouh, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une émission aussi jolie que ça à la télé. À partir de là, ils sont donc greenlit, c'est-à-dire que littéralement, ils partent en saison 1, diffusée. Et là, nous, en fait, on intègre un petit peu les meubles de l'émission, c'est-à-dire qu'on devient avec mon épouse les chorégraphes officiels originaux de l'émission et on travaille sur l'émission sur plein de trucs et on est souvent ceux qu'on appelait pour les petites missions un petit peu compliquées. Un jour on nous appelle, on dit, écoutez, on a une idée géniale mais tout le monde nous dit que c'est impossible, on voudrait faire une danse de groupe avec tous les pros et toutes les célébrités en même temps, mais il n'y a que 4 heures de répétition possible. Et vous pensez que vous pouvez le faire? Nous, bien sûr, la réponse est toujours oui, absolument. Mais après, on se tire les cheveux pour savoir un peu comment on va le faire. Et donc, en fait, on commence comme ça dans les coulisses, on devient vraiment les chorégraphes de l'émission, on travaille avec l'équipe. Et à un moment donné, les équipes de réalisation et les équipes de production anglaises me disent « Mais tu veux faire quoi, toi ?» Et en fait, je leur dis « Bah, en fait, moi, j'adore la direction artistique, la mise en scène. C'est vraiment ce que j'aime, en plus de la performance. » Et plus tard, je me vois être directeur artistique, metteur en scène, en plus de performeur. Et ils me disent « Bah, écoute, on va te former. » Et donc, ils me font passer par tous les pôles. La réal, la lumière, les décors additionnels, les effets spéciaux, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'apprends. Et tout d'un coup, en fait, la France, en 2011, apprend qu'il y a un petit Français qui est sur la version originale, qui connaît le format, mais par cœur. Il faut qu'ils viennent nous voir. Donc, je prends l'Eurostar, on arrive, interview. Au départ, ils voulaient me voir comme juge. Je fais mon entretien. Ils me disent « Écoutez, on aimerait bien que vous rencontriez les producteurs. » Et là, on rencontre les producteurs et on parle avec eux. Je parle avec eux pendant une heure. Mais pas du tout de juger l'émission, mais plutôt, ils ont 40 000 questions sur « Mais comment on fait ça ? Et comment on fait ça ? Et au fait, on peut pas faire ça. » Et au fait, et donc moi, réponse à tout, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais été en plein dedans. On avait déjà rencontré toutes les problématiques presque du format. Et donc là, quelques jours plus tard, je reçois une proposition pour devenir le directeur artistique de l'émission. Ce qui est génial pour moi, parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que j'étais plus en France, ça faisait presque, je sais pas moi, 15, 18 ans, un truc comme ça. Et je reviens pour travailler pour TF1. J'ai grandi avec TF1, moi, je regardais TF1, les émissions de divertissement, c'était TF1. Et donc là, je suis comme un ouf, mais je reviens en tant que directeur artistique de cette émission. Et le mot d'ordre est, il faut trouver un moyen de moderniser cette émission, parce que ce qui est génial en Angleterre, c'est qu'en fait, ils ont une espèce d'amour pour le kitsch. Mais c'est génial, hein. J'adore ça. Mais en France, ça n'aurait pas passé. En France, ça aurait été mais immédiatement ringard, quoi. Et donc, ce qui est génial, c'est que les producteurs de l'émission, Frédéric Pedraza, Jean-Louis Blot, qui sont des gens, des fous en télévision. Jean-Louis Blot, maintenant, c'est le patron de Endemol France. Fred Pedraza, c'est le patron de TF1 Productions. En fait, ils avaient vraiment cette fibre de modernisation, de grand public, de populaire. Ils savaient, en fait, ce qu'ils allaient chercher. Et moi, mon taf, en fait, c'était de répondre à ce cahier des charges. Et donc, au départ, bon, de façon assez traditionnelle, on monte l'émission, on commence à l'éclairer un petit peu différemment, on cherche plus de contraste dans l'image. Alors qu'à l'époque, tu vois, les plateaux de divertissement, c'était quand même très, très enfumé. Il y avait beaucoup de, il n'y avait jamais une couleur. En fait, le noir, tu vois, en termes de couleur, colorimétrie, n'existait pas. C'était toujours du gris parce qu'il y avait de la fumée partout. Donc, t'arrivais pas à avoir des vrais contrastes de couleurs, tu vois. Et donc là, nous, on commence à travailler sur ça tout d'abord, des choses de base, l'approche musicale, d'être un peu plus moderne, d'utiliser des titres un peu plus contemporains. Et très rapidement, on me dit, écoute, il faut commencer à ramener de l'innovation. Et donc là, moi, innovation, tu me dis, vas-y, hein, c'est la tech et c'est l'art qui se rencontrent, moi, ça me va. Je me balade à New York, je vois un artiste qui, à la craie, est en train de dessiner un faux relief sur le trottoir. Et ce faux relief, en fait, te donne l'impression que tu vois le métro en dessous. Et en fait, il y avait une problématique sur Danse avec les stars qui était, quand tu fais un plan large de ton image, qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton image ? C'est le parquet. Ce parquet, il faut en faire quelque chose avec. Et donc, jusqu'à présent, ils balançaient de la lumière. Mais c'était dégueulasse, c'était pas très beau, tu vois, parce que c'est pas fait pour... la lumière, en fait, elle devrait pas être faite pour l'impact qu'elle fait au sol, elle devrait être faite pour l'impact qu'elle a dans l'air, tu vois. Et donc, je dis, putain, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on introduise la projection au sol et qu'on fasse des faux reliefs, de la 3D, des trucs comme ça, tu vois. Et si je mets la caméra au bon endroit, on a vraiment l'impression que c'est en 3D, le truc, tu vois. Et donc, à l'époque, je leur dis, écoutez, on va introduire du mapping. On était la première émission à le faire. On introduit du mapping. Bah, effectivement, tu vois, tout d'un coup, tu vois les trucs, tu dis, waouh, c'est un délire, parce que c'était du jamais vu à l'époque. Deuxième saison, je leur dis, on peut aller plus loin. Troisième saison, on peut aller plus loin. On va faire du mapping, de la projection, mais en plus de ça, on va prendre des images de synthèse en 3D qu'on va balancer en superposition sur le direct. Et donc, la projection qu'il y a sur le parquet, plus le direct, plus une image qui est calculée pour être appliquée par-dessus en temps réel, avec un tout petit peu de déplacement de caméra et donc des ombres qui se déplacent, ça va donner une impression de faux tracking, mais de ouf,
Et donc, je peux faire sortir le sphinx du sol, je peux te faire sortir les pyramides, ce que tu veux, tu vois. C'est... Et là, bon, bah, gros carton, les gens adorent parce que bon, bah, c'est magique, ça fait rêver les gamins, ça fait rêver tout le monde un petit peu parce que c'est vrai que c'était un petit moment onirique, c'était un petit moment, tu vois, suspendu. Et ils voyaient qu'on essayait d'innover, de créer des nouvelles choses.
Ouais.
Et après, on avance et à chaque fois, la question que j'avais en début de saison, c'était bon, et l'innovation, c'est quoi cette année? Il faut qu'on trouve un truc, hein. Eh oh, c'est bon, le mapping, on a vu, hein. Et donc là, j'arrive à une saison où je dis. J'avais Ryan Bensetti, qui était tout jeune, tout frais, qui arrive. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais une des questions qu'on se posait tous dans l'équipe de Danse avec les Stars, c'est en Angleterre, il y a une grande culture de la danse. En France, il y a une culture de la danse, mais qui est principalement axée autour de l'Opéra de Paris et qui n'est pas forcément ancrée dans le populaire. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe si tu es en région? Que tu n'as pas forcément une culture habituelle de la danse, tu vois. Comment, en fait, tu peux t'accrocher à une performance? Et la seule chose dans ma tête que je me suis dit, c'est bah, on devrait. C'est la narration. C'est la narration. Il faut trouver un moyen de raconter une histoire au-delà de simplement une danse. Et donc, je pars du principe qu'en fait, on va créer des petits films, des petits courts-métrages, qu'on va raccorder en direct. C'est-à-dire que le film. Ça peut, par exemple, être dans une situation, tu vois, avec Ryan Bensetti, c'est ce qu'on a fait. Tableau sur le Roxane de Moulin Rouge. C'est un tango, ça doit être passionné, ça doit être passionné, ça doit être puissant, ça doit être fort, ça doit être déchirant également. Et donc, je dis, bah, écoute, on crée une scène, en fait, où on se met sur le pont Bir Hakeim à 2h du matin. On se met sur le pont Bir Hakeim, il y a des jolis escaliers sur les côtés. On voit la danseuse en fait qui descend les escaliers. Elle croise le regard de son mec, mais son mec il est au bras d'une autre nana en train de monter les escaliers. Et là tout d'un coup elle se met à courir, elle est en pleurs. Là tout d'un coup l'autre la suit et bam, on est sur le pont Bir Hakeim maintenant et on est en train de les suivre et c'est une course. À une vitesse hallucinante, elle arrache son collier de perles en 3D, la perle, elle vole, on a du slow motion dans la course, et là, tout d'un coup, ils prennent le détour d'un poteau, et au détour de ce poteau, c'est ce que j'utilise pour faire le raccord avec mon pote, un copain à moi, Charles Baldassara, qui littéralement a toujours été sur tous les plans de dingue, dès qu'on a fait quelque chose bah, en télé, de cool, ça a été ensemble. Et en fait, à ce moment-là où ils passent le poteau, eh ben, on est en direct sur TF1. Et donc, les gens ne voyaient jamais. Mais attends, mais comment ils sont... C'était un film ou c'était pas un film? Je comprends pas. Et ça, ça a été le petit côté magique qu'on a réussi à mettre en place parce que tout d'un coup, on installait une ambiance, on installait une histoire. Et tout d'un coup, la danse qu'il y avait derrière, elle racontait autre chose. Parce qu'on était vraiment, tu vois, sur une scénette de film, en fait. On créait un peu la comédie musicale de 3 minutes 30, tu vois. Et donc... Danse avec les Stars, c'est quoi pour moi? Danse avec les Stars, c'est tout simplement la plus belle émission, la plus parfaite qui ait jamais existé pour moi, pour créer, pour mettre certes la danse en avant, mais également pour en fait permettre à des fous de technologie et des fous d'art de venir ensemble et de bidouiller des trucs qui sont splendides à regarder. Et pour moi, Danse avec les Stars, déjà, c'est avant tout c'est ça. C'est un espèce de laboratoire de fou qu'on a nulle part ailleurs. Hein. Tu peux pas le faire au cinéma, ça. Tu peux pas le faire. Non. Là, on a une idée le lundi. On la produit. On la tourne le mardi soir ou le mercredi soir en pleine nuit. Et le samedi ou le vendredi soir, elle est en direct sur TF1. Nulle part ailleurs, ça existe, ça. Même dans les pays étrangers.
Donc c'est...
C'est le labo de dingue.
Tous ces ingrédients, finalement, c'est ça qui fait la réussite du format et que ça cartonne justement depuis 2011.
Ouais.
Merci d'avoir détaillé justement tout ça. En 2016, il y a un événement marquant pour toi d'un point de vue personnel. C'est la naissance de ton fils,
ouais.
Jackson.
Ouais.
Quel impact ça a justement sur toi?
Ça a tout changé. Ça a tout changé littéralement d'un moment à l'autre. En fait, ce qui est génial, c'est que avec mon épouse, ça faisait déjà presque 18 ans qu'on était ensemble, je pense, un truc comme ça.
Et en fait, il arrive, et c'est comme s'il avait toujours été là, en fait. Il s'intègre immédiatement. On est trois, mais en fait, bizarrement, c'est très, très chelou ce que je dis, hein, mais c'est comme si on avait toujours été trois. Et donc ça, c'est assez cool. En plus de ça, ça remet plein de choses en perspective, ça remet plein de choses un petit peu à sa place. Ça te fait te poser des questions auxquelles tu ne t'es jamais posé, que tu ne t'es jamais posé auparavant, tu vois. L'équilibre vie, boulot, le bien-être. Mon épouse et moi, on a toujours vécu un peu l'un pour l'autre et c'est en fait, on est un, on est deux, mais on est un et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, t'as cette petite personne en plus, tu vois, et cette personne, en fait, tu vis pour complètement. Tu vois, c'est, tu me donnes le choix aujourd'hui, je dois sauter, je saute. Il y a zéro question, en fait. Ce Jackson, c'est un délire total parce que il est génial. Tous les parents vont le dire, hein, ça, de ses enfants. Mais il est génial et cet enfant ne saura jamais exactement, ne pourra jamais comprendre, à mon avis, jusqu'au jour où peut-être lui aura un enfant. Il ne pourra jamais comprendre le bien qu'il a apporté dans notre monde. C'est ouf.
Je comprends totalement, même si j'ai pas encore vécu ça, mais je sais de par les conversations que j'ai pu avoir l'impact que ça peut avoir sur une vie justement, sur même plusieurs vies. On fait un saut dans le temps, ouais. Parce que finalement, on pourrait faire un podcast de 4-5
heures
facile, 10 heures facile. Mais j'aimerais faire un petit focus sur un événement qui, quand ce podcast sera sorti, c'est un événement qui est sorti il y a quelques jours. Tu fais pour la première fois une voix off, un doublage dans un film d'animation qui s'appelle Les Inséparables, qui est sorti le 13 décembre.
Je suis un chanteur d'opérette.
Excellent. Est-ce que tu veux me raconter cette aventure? C'est un film d'animation donc avec des voix off, notamment Anna Girardot, Jean-Pascal Zadi, Eric Judor ou encore Olivier Paris. Est-ce que tu veux me raconter cette aventure?
C'est dingue. En fait, on a tourné un film l'année dernière à New York qui s'appelle Mon Héroïne. C'est une copine à nous qui l'a écrit et qui l'a réalisé, qui s'appelle Noémie Lefort. Elle nous a dit, écoute, moi dans mon film il y a une chorégraphie il y a plusieurs chorégraphies, elles sont vraiment importantes en fait au scénar et vraiment j'aimerais vraiment que ce soit Jackie et toi qui la fassiez, et en plus de ça il faut venir tourner la scène à New York et c'est en plein Danse avec les Stars. Et en fait on a tout de suite dit oui. On voulait le faire, on voulait participer à son aventure. C'était en partie autobiographique pour elle aussi. Donc, c'était important que les copains soient là et pour nous, c'était important d'être là. Mais je rencontre donc son producteur qui s'appelle Mathieu Zeller. Boîte de production s'appelle Octopolis. Et en fait, Octopolis développe plein de projets tout le temps. Et notamment, ils ont acquis des parts dans le studio N-Wave, qui est un studio belge d'animation. Et il me dit, à un moment donné, pendant le tournage du premier film, il dit, écoute, je bosse sur un dessin animé, sur un film d'animation. Il y a des grandes scènes un peu à la Broadway. Mais il nous faudrait un chorégraphe, une chorégraphe. Et franchement, on vous a eu bosser avec Jackie et toi et on aimerait vraiment que ce soit vous qui le fassiez. Mais est-ce que ça vous brancherait de le faire? Je dis, ouais, mais c'est quoi en fait? Écoute, c'est une peluche qui rappe avec un mec qui ressemble à Don Quichotte. Et en fait, c'est des marionnettes et elles sont dans Central Park. Je me dis, waouh, le délire, j'ai rien compris. mais en même temps, c'était de l'animation. En même temps, il nous envoie un petit peu le screenplay, tu vois. Et je vois le truc et que c'est vrai que l'histoire, elle est canon. En plus, c'est écrit par les auteurs de Toy Story. Et donc, je me dis, waouh, c'est trop cool. Et là, il me dit en plus de ça, écoute, faites la chorégraphie et on aimerait vraiment, vraiment que tu fasses une des voix. Mais il faut qu'on teste d'abord. Et donc, là, on fait la chorégraphie. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ils ont choisi de ne pas faire de la motion capture. Ils ont voulu absolument que, on a créé la chorégraphie. Alors, ce qui est marrant, tu vois, pour entrer un peu dans les détails, quand tu crées de la chorégraphie pour de l'animation, tu dois prendre en compte la physicalité de tes personnages, tu vois. Et donc là, il y en a un, DJ Doggy Dog, qui est le personnage principal. C'est une petite poupée rappeur, un petit nounours rappeur, tu vois. Mais ça veut dire que bon, il n'a pas vraiment de genoux, il a à peine des coudes, tu vois. Et donc, quand il danse, tu vois, c'est toujours un peu plus, tu vois, il y a moins de... Et en fait, Jackie et moi, on a dû
prendre chaque personnage et se dire, bah, il bouge comment, lui ? Et comment est-ce qu'en fait, on peut l'animer, ce truc ? Et comment on peut... Et donc ça, c'était un travail super intéressant. Après, on a créé la chorégraphie avec nos assistants. Et en fait, ensuite, on a envoyé un plan large, plan latéral, à Jérémy de Gruson, qui est le réalisateur et qui bosse donc avec tous les animateurs. Et on leur a envoyé. En fait, on a fait un aller-retour pour un petit truc qu'ils voulaient peut-être adapter un peu différemment, etc. Et après, c'est parti en animation. C'est-à-dire qu'ils ont pris image par image et ils ont reproduit la chorégraphie de chaque personnage. Et là, j'étais en mode
« Wow,
ok ». Et donc, on finit cette partie. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle les animatiques. C'est toutes les étapes différentes, en fait, d'animation avec des rendus différents. Certains ont les textures, certains n'ont pas de textures. Certains ont les reflets, d'autres n'ont pas. Certains, c'est juste, en fait, les outlines de chacun des personnages. Et en fait, c'était ultra intéressant parce que dès le départ, en fait, ils nous renvoient un truc. Ah, je vois le truc, je me dis, mais attends, mais c'est déjà Pixar. Qu'est-ce qu'ils vont faire par-dessus ? Tu vois, c'est improbable. Et vraiment, ça montre le talent qui existe dans ce studio. Parce que vraiment, le film est non seulement à tomber par terre, l'histoire est géniale, mais qu'est-ce qu'il est créatif ! Il n'y a pas un seul style d'animation, il y en a plein. Il y a des moments où c'est de la 2D, il y a des moments où c'est de la 3D. En fait, ça change tout le temps et c'est fascinant. Et ensuite, en fait, à l'issue de ça, on me demande de tester pour la voix ce que je fais. Ils me disent « Ah ouais, non mais c'est bon. Afonso, c'est toi qui vas faire la voix du mec, ça va être trop bien et tout. » Et là, j'arrive et la façon dont ça marche, c'est qu'en fait, on est dans un espèce de petit cinéma. On a le film en gigantesque et en dessous du film, on a trois lignes qui défilent. Et donc là, bah écoute, c'est une question de rythme, c'est de rester en fait synchro, on va dire, avec la ligne zéro, tu vois, et de réussir en fait à sortir tes phrases de façon naturelle pour que ça corresponde à peu près également avec les lèvres et tout ça. Et j'ai adoré le faire. Vraiment, mais j'ai adoré le faire. C'est-à-dire que tu me dis demain, Chris, on a le dernier Pixar qui arrive et il y a 30 jours de voix à faire. Je te dis, mais vas-y, je signe tout de suite. Tout de suite, je ne me pose pas la question.
Tu as travaillé ta voix, du coup ?
Ouais, mais en fait, tu sais, alors moi, j'ai l'habitude de performer. J'ai l'habitude de performer en live sur scène et j'ai l'habitude de performer à la télé. Et tu n'utilises pas ta voix de la même façon. Moi, c'est pas à toi que je vais le dire, mais en fait, tu n'utilises pas, ta voix de la même façon, tu vois. En télé, quand je suis arrivé la toute première fois à l'antenne, mon expérience était une expérience purement de scène. Mais laisse tomber. Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu l'ouïe en m'écoutant. Je gueulais tellement, c'était improbable. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu apprends tout d'un coup à moduler ta voix. Tu apprends également à la rendre un tout petit peu plus chantante, parce que moins tu parles fort, plus les différences dans ton intonation en fait s'entendent. Et donc, ça c'est un travail que j'ai fait pour la télé. Ça rend également mon travail sur scène plus intéressant à écouter, parce qu'en fin de compte, plutôt que de tout simplement vouloir projeter et brailler, je m'exprime un petit peu différemment, mais j'ai toujours la même patate, donc tu m'entends quand même. Et donc là, quand je suis arrivé sur le film, c'était encore un tout petit truc en plus, c'est qu'en fait, là je ne jouais pas Chris, je jouais Afonso. Et donc, tu vois, c'est un chanteur d'opérette, il a un petit accent comme ça. Et c'est marrant parce que tu vois, tu joues avec ce personnage, mais tu dis, attends, il faut que je garde maintenant ce personnage sur tout le film, tu vois.
C'est clair.
Attends, mais s'il a un accent là, et pourquoi il n'a plus d'accent là-bas ? Attends, c'est chelou. Et c'est là, en fait, où, bon, bah écoute, soit t'es bon, soit t'es pas bon.
C'est un travail de précision et de répétition, j'imagine. On va pouvoir passer à la partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué dans ton aventure ? Je sais que des rencontres, il y en a des centaines, voire des milliers, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une qui t'a marqué ?
J'avais un coach de danse qui s'appelle Corky Ballas. Et il s'était rendu compte très rapidement que mon épouse et moi, on avait des facilités et on travaillait bien. Mais il avait également vu qu'on était dans des milieux qui étaient un peu difficiles parce que souvent on se disait « Waouh, je comprends pas pourquoi ça marche pas, etc. » Et lui, en fait, il avait ce côté, c'est un Américain, et il nous raconte, en fait, un jour, il nous dit « Écoutez, je vais vous expliquer un petit peu le game. » Il me dit « La plupart des gens vont vous raconter des trucs qui sont pas vrais. Le vrai game, la vraie réussite, c'est pas d'être celui qui gagne le premier. C'est pas vrai. C'est celui qui sera encore debout
à la fin du game. Et il dit, si tu vois ta vie comme un game, l'idée, c'est de se dire, tu tiens, tu tiens, tu tiens, et tu lâches pas. Et il me dit, je vais vous mettre une image dans la tête. Imagine un tout petit mec qui est sur une espèce de pierre gigantesque, énorme. Et là, son pic, tu vois. Et il pique, et il pique, et il pique, et il se passe rien. Et il pique, et il pique, et il se dit, putain, mais ça va jamais le faire. Et il pique, et pendant des années, il pique, et il pique, et il pique. Sauf que le jour où cette pierre, elle se brise entièrement, tout d'un coup. Et tout d'un coup, toutes ces années où il s'est rien passé, eh ben, tu comprends qu'elles ont valu le coup quand même. Et bah ça, en fait, c'est un truc qui nous a marqué. Parce qu'en fait, quand tu es au plus profond de ton down, quand tu dis « mais c'est pas possible, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne bah, », tu gardes en tête que des fois, le game, c'est juste de rester debout. Un jour de plus. Encore un peu. Allez, un pas de plus. Et dans l'entrepreneuriat, littéralement, c'est ce qui m'a servi le plus.
Ça doit être toi le boss de fin, en fait, de ce jeu. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ?
Pour moi, l'entrepreneuriat, il y a deux choses. Hein. On associe des fois presque de façon interchangeable le mot entrepreneuriat et argent. Et en fait, j'adore l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà, c'est un état d'esprit. D'une, l'entrepreneuriat, c'est pas la bonne voie pour tout le monde. De deux, l'entrepreneuriat doit invariablement être une envie de croître, une envie de faire, une envie de découvrir. Le mec qui démarre en se disant « je sais déjà et je veux ça et je le veux exactement comme ça », pour moi, c'est pas un entrepreneur. Tu montres un entrepreneur qui, jour 1 de sa boîte, savait exactement ce que sa boîte allait être tout de suite à la fin et comment cette boîte allait rencontrer le succès, je te dis, tu as trouvé l'exception qui confirme la règle. Parce que 99,9% des entrepreneurs te diront, j'ai commencé ma boîte pour faire des donuts et j'ai fini par vendre de la viande. Donc, tu vois.
Ouais, je pense que c'est de très bons conseils. Comment est-ce que tu relis le pro et le perso ?
Alors ça, c'est pas bien, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de différence.
C'est une réponse que j'ai très souvent dans le monde entrepreneurial.
Non, mais en fait, je pense que ça, c'est peut-être le truc, tu vois, où on devrait faire un espèce de groupe entrepreneur anonyme. Parce que le truc qui est le plus chaud, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que l'entrepreneuriat est souvent uniquement porté par les millionnaires qui ont réussi. Sauf qu'en fait, la majorité des entrepreneurs, on est bon dans quoi ? Ben en fait, on est bon dans le prenage de tarte. C'est-à-dire que tu vois ce mur-là ? Ben les entrepreneurs, on est ultra bon à se les prendre dans la tête. Sauf qu'en fait, on va continuer jusqu'à ce qu'on ne se le prenne pas le mur. Ben, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas vraiment passionné. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu parles de passion, tu parles de quelque chose de beaucoup plus viscéral. Et tout ce qui est viscéral, c'est pas vrai, il n'est pas complètement déconnecté de toi. C'est l'inverse. C'est tout ce qui est viscéral, c'est toi. Donc en fait, le perso, toi, c'est en fait ce qui te mène à devenir un entrepreneur.
Clairement.
Donc séparer les deux, je vois pas comment si vraiment tu es un
très,
entrepreneur.
Très rare. Très très rare.
En revanche, je pense que le bien vivre, le bien-être. Pour un entrepreneur, et ça, je suis très heureux qu'en fait, il y ait une vraie évolution dans ça. Ça, pour le coup, ça devient une priorité absolue. On doit faire attention à tous ces éléments-là.
C'est très précieux pour tenir sur le long terme.
Exactement. Exactement.
On passe sur la partie finale avec quelques petites questions rapides. Évidemment, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'en fait, je passe du temps avec ma famille. C'est très important. Je passe du temps avec ma famille. Mais en même temps, pour aller mieux, souvent, pour moi, ça passe par l'alimentation. Ça paraît bête, hein. Et avant que mon fils arrive, j'étais un obsessif de la minutie de ma vie. C'est-à-dire que je pouvais te dire exactement, je vais dormir à 7 heures là, je vais me réveiller à 7 heures là, je vais manger ça,
je vais faire ci, je vais faire l'autre. Bon, depuis que le petit est arrivé, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, ça devient encore plus important de bien manger. De...
Ouais, ok, super. C'est quoi ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve, c'est...
Est-ce que tu l'as déjà atteint?
Non, parce que le mec qui me dit « j'ai déjà atteint tous mes rêves », il te raconte des conneries, je ne crois pas une seconde. Et si c'est vrai, franchement, c'est dommage, une vie sans rêve. Hein. Oh, là, 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 là. Non, non, mais moi, tu vois, j'ai des trucs qui sont très, très terre à terre. Moi, mon plus grand rêve, c'est juste, en fait, qu'il n'y ait plus de problèmes, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de maladies, que les gens soient bien. Mais tu vois, c'est complètement utopique, c'est débile. Mais en même temps, on est humain. Et je crois qu'il faut croire des fois en des choses débiles pour se dire qu'en fait, il y a des directions dans lesquelles on doit aller en tant qu'espèce, tu vois.
C'est quoi ta plus grande peur ?
Ma plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à mes proches. Ça, c'est ma plus grande peur.
Une bonne réponse. J'aurais répondu pareil. y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Oui.
Dis-moi.
Ouais. J'aimerais qu'on parle de trésorerie.
Ok.
Parce qu'en fait, j'ai un vrai problème avec les entrepreneurs, moi, aujourd'hui. Le nombre de personnes qui viennent me voir et qui, en fait, me parlent d'abord de leur chiffre d'affaires me saoule royalement. Je ne comprends pas comment, aujourd'hui, avec le nombre d'informations qu'il y a, les gens n'ont toujours pas compris que je préfère une boîte avec du cash flow positif qui ne fait que 300 000 balles de chiffre d'affaires plutôt qu'une boîte qui fait 10 millions de chiffres d'affaires et qui est littéralement dans le rouge tous les jours et qui, à la fin de l'année, en fait, perd 250 000 balles. Je ne vois pas pourquoi, en fait, les gens ne comprennent pas ce truc de base.
Ouais, je suis très aligné avec ça et c'est clair que je pense que on a trop mis en avant ces derniers temps des boîtes qui, effectivement, peut-être faisaient beaucoup de CA ou levaient beaucoup de fonds, mais derrière n'étaient jamais rentables. Bon, ces derniers mois, il y en a beaucoup qui se sont crachés, au vu du contexte, etc. Mais c'est clair que mettons le focus et la priorité sur la rentabilité et sur effectivement la trésor que sur des chiffres mirobolants qui ne veulent pas dire grand-chose, finalement.
Mais ouais, mais complètement. Et tu vois, moi, il y a un petit truc additionnel qui est intéressant, mais ça, c'est plus en fait une question de vie de tous les jours. Moi, les gens ont tendance à pas trop m'approcher parce que En termes d'entrepreneuriat, hein, les gens ont tendance à pas trop m'approcher parce qu'en fait, ils me voient un peu comme le mec de TF1 qui est maqué uniquement avec TF1 et c'est un danseur. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, TF1 sont mes partenaires professionnels en termes d'antenne avec qui je m'entends tellement bien. Je kiffe en fait bosser avec eux, je m'entends très bien avec les équipes, je m'entends très bien avec... les dirigeants de la boîte, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a encore toute une autre vie en dehors de l'antenne dans laquelle je ne suis pas en fait danseur, tu vois. Et j'adore qu'on m'approche avec des idées, qu'on m'approche avec, tu vois, qu'on me dit, écoute, j'ai pensé à ce truc, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'as envie de participer au machin. En fait, j'aimerais qu'on ait moins peur de m'approcher, tu vois.
Je te le dis, t'es entrepreneur, hein, sinon tu serais pas là dans le podcast. Et j'ai bien fait de t'envoyer ce message, puisque du coup, ça a donné un échange très cool. Il me reste trois petites questions. J'ai rajouté une question cet été qui s'appelle la question reverse. Ouais. Tu prends le rôle de host pour une seule question.
Ouais.
Faut pas déconner. y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser ?
Ouais.
Dis-moi.
À quelle vitesse arrives-tu à monétiser un podcast à partir du moment où tu le lances ?
Ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. Ça peut être très rapide, c'est-à-dire que si tu pars pas de zéro, tu peux potentiellement le financer, trouver des sponsors, des marques qui vont te faire confiance dès le départ parce qu'elles te connaissent en tant qu'être humain et elles savent que ton podcast, il va être cool et ça va être intéressant. Et ça va être un peu plus long si effectivement tu pars de zéro. Moi, quand j'ai créé ce podcast en 2017... ça a été un peu plus long. J'ai mis quelques années à le monétiser. Mais franchement, tout dépend de toi, en fait, tout simplement.
Et là, maintenant, tu vois, dans le landscape du podcast, il y en a un peu dans tous les sens, à toutes les sauces. Mm-hmm. Comment tu arrives à démarquer un podcast d'un autre ?
Tu te différencies sur plusieurs sujets. Le premier, ça va être l'axe de ton podcast. Donc finalement, c'est ta personnalité qui va donner l'essence de ton podcast et qui va faire que les gens vont l'apprécier ou non. Ensuite, évidemment, il y a la qualité de production, parce que ça, c'est, on va dire, une base fondamentale de tout contenu qui fonctionne. Et après, ça va être aussi le fit avec les invités que tu vas recevoir, si t'es un podcast conversationnel, où là, effectivement, ces fits vont créer une audience et de gens qui vont vouloir écouter le podcast toutes les semaines, tous les mois, etc. Je pense que si tu réunis tout ça, t'as de bons ingrédients de départ pour cartonner.
Très bien.
Voilà. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Alors, est-ce que tu as déjà eu Pauline Legnaud ?
Non.
J'adore Pauline. J'adore Pauline parce qu'en fait, elle a une vision d'entrepreneuriat qui est très cool. J'aime sa façon d'approcher les choses. Elle est dans le luxe et pourtant, je trouve que d'une certaine façon, elle s'est appropriée les codes du luxe. Tout en apportant une modernité, tu vois, dans sa façon d'appréhender le luxe. Et je trouve ça vraiment génial.
Ok, écoute, je note la reco. Et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ?
Une ou un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné, qui va porter un projet, qui va être dans le faire et pas dans le penser. C'est bien de penser uniquement si c'est allié à l'acte de faire. Et je pense que très souvent, on a des stratèges de canapé qui disent qu'ils sont entrepreneurs, mais tu les retrouves 6 mois plus tard, ils sont toujours dans leur stratège, dans leur canapé, tu sais.
Ouais, je suis bien d'accord. Et je pense que ce sera la conclusion parfaite pour cet échange. J'espère que ça t'a plu.
C'était canon à faire, merci beaucoup.
Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. J'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, à part un maximum de kiff, tout simplement.
Bah écoute, c'est super, c'est parfait.
Merci beaucoup, Chris.
Merci à toi.
Salut.